Chapitre 5 L'heure sombre. Si quelque chose avait pu grandir John McMurdo dans l'estime de la loge, c'eût été son arrestation et son acquittement. On ne se souvenait pas à la société d'un homme qui, dès le lendemain de son initiation, se fût mis en situation de comparaître devant la justice. Déjà, l'on réputait McMurdo comme un bon compagnon, un gai viveur et, par-dessus le marché, un homme de caractère, incapable de supporter une insulte, fût-ce du patron lui-même. On considérait en outre que personne ne s'imposait davantage, et par son intelligence, pour machiner une entreprise criminelle, et par sa décision pour l'exécuter. Il autorise toutes les espérances, se disaient les anciens l'un à l'autre, et ils attendaient le moment de l'utiliser. McGinty n'avait point jusque-là manqué d'instrument, mais il reconnaissait à celui-ci une valeur exceptionnelle. Il se faisait l'effet d'un chasseur qui tient en laisse un limier de choix. Le jour viendrait de le lâcher. Il avait sa meute pour le gibier ordinaire. Cependant, quelques membres de la loge, et notamment Ted Baldwin, ne voyaient pas sans fureur et sans haine la rapide fortune de l'étranger. Mais ils l'évitaient, le sachant aussi prêt à combattre qu'à rire. Par malheur, en même temps qu'il se poussait dans la faveur de ses camarades, McMurdo perdait du terrain sur un point où maintenant il était encore plus engagé. Le père d'Eldith Schaeffer avait définitivement rompu avec lui, il lui interdisait sa maison. Yeti elle-même, trop profondément éprise pour se ressaisir, n'envisageait pas sans terreur le mariage avec un homme qu'elle regardait comme criminel. Un matin, après une nuit sans sommeil, elle résolut de le voir, peut-être pour la dernière fois, et de faire un vigoureux effort pour l'arracher à de trop funestes influences. Elle se rendit chez lui, comme on l'avait souvent prié, et gagna tout droit sur chambre où il se tenait d'habitude. Assis à une table, le dos tourné, il semblait écrire une lettre. Elle n'avait que 19 ans. Hetty. Une idée malencontreusement puérile lui traversa le cerveau. McMurdo ne l'avait pas entendu ouvrir la porte. Elle s'avança sur la pointe des pieds et le toucha aux deux épaules. Oh, si elle pensait le surprendre, elle ne s'était point trompée, car il fit un tel sursaut qu'elle frémit d'épouvante et se retournant dans un bond de tigre, il lui chercha la gorge avec la main droite, pendant que de la main gauche, il faisait le papier posé devant lui. Puis, à un moment, il la regarda avec des yeux enflammés. Et alors, l'étonnement, la joie, dissipèrent l'expression de férocité qui lui convulsait le visage, et qui avait fait reculer la jeune fille, comme devant la brusque révélation d'une horreur inconnue. « Vous !» s'écria-t-il en épongeant son front moite. « Pensez que vous venez à mon cœur, de mon cœur, à moi, et que je ne trouve rien de mieux à faire que de chercher à vous étrangler !» Il ajouta, l'appelant de ses deux bras, « Oh, que je vous serre contre moi, que je vous explique !» Mais elle demeurait bouleversée d'avoir vu, le temps d'un éclair, sur le visage de Macmurdo, une peur étrange, suspecte. Son instinct de femme lui disait ce n'est pas le sinistre émoi de la surprise, c'est de la peur, comment on en éprouve seul un coupable. Mais que s'est-il passé en vous, Jack? S'écria-t-elle, pour que j'aie pu vous effrayer à ce point? Vous ne m'auriez pas ainsi regardé si vous aviez eu la conscience tranquille. Oh, je pensais à autre chose. Et quand vous êtes venu à la sourdine, en glissant sur vos pieds de fée, non, c'était plus que cela, Jack. Et tout d'un coup, un soupçon la traversa. Montrez-moi la lettre que vous écriviez. Oh, je n'ai pas le droit, elle dit. Le soupçon devint aussitôt une certitude. Ah, je comprends, dit-elle. Vous écriviez à une femme, peut-être à votre femme, car après tout, sais-je, si vous n'êtes pas marié, vous qui êtes ici à l'inconnu pour tout le monde. Je ne suis pas marié, Etty. Je vous le jure. Je vous jure sur le Christ qu'il n'y a pour moi, ici-bas, d'autre femme que vous. Et il parlait avec tant de fièvre et il était si pâle qu'elle fut forcée de le croire. Alors pourquoi me refuser cette lettre? Ma chérie, j'ai juré de ne la montrer à personne. Je ne voudrais pas trahir mon serment. De même que je ne voudrais pas manquer à la parole que je vous ai donnée. Ce qu'il y a là-dedans, vous ne devez pas me le demander. C'est le secret de la loge. Ne comprenez-vous pas qu'en sentant une main sur moi, je pus craindre que ce fût celle d'un détective? Sa parole avait l'accent de la vérité. Il attira Letty sur son cœur, et par ses baisers, il s'efforça de lui rendre le calme et la confiance. Asseyez-vous là, près de moi. Oh, ce n'est pas le trône que mériterait une reine, mais c'est le moins indigne que puisse vous offrir votre amoureux. Un jour viendra où il aura mieux à vous donner, j'espère. Alors, vous voilà rassuré, n'est-ce pas? Mais comment serais-je jamais rassuré, Jack? Quand je sais que vous êtes un criminel, associé à d'autres criminels, quand d'un instant à l'autre, je puis apprendre votre arrestation pour meurtre. Macmurdo, l'écumeur, voilà dans quel terme vous désignez aujourd'hui l'un de nos pensionnaires. J'ai reçu le mot en pleine figure, comme un coup de poignard. Mais les mots n'ont pas d'importance. Celui-là était vrai. Mais vous vous exagérez, ma chérie. Nous ne sommes que de pauvres gens qui essayent, comme ils peuvent, de maintenir leurs droits. Etty noua ses bras au cou de son amoureux. Reprenez-vous, Jack. Pour l'amour de moi, pour l'amour de Dieu, soyez votre maître. Je viens vous demander. Tenez, je me mets à vos pieds. C'est à genoux que je vous supplie, que je vous implore. Il la releva et, pour l'apaiser, il pressa contre lui la blonde tête. Ben, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez, ma chérie. Comment me reprendrai-je sans faillir à la parole jurée, sans déserter mes camarades? Vous ne me le demanderiez pas si vous connaissiez mieux ma situation. Quand même, je le voudrais, je le pourrais-je. Vous ne supposez pas que la loge permette à un homme de s'en aller ainsi, emportant ses secrets. Oh, mais j'y ai réfléchi, Jack. J'ai tout arrangé. Mon père a mis de côté quelque argent. L'existence lui devient de plus en plus intolérable dans cette ville, en proie à la terreur. Il partirait volontiers. Nous fuirions ensemble pour Philadelphie ou New York. Vous échapperiez à ces hommes. McMurdo se mit à rire. Mais la loge a le bras long. Pensez-vous qu'elle ne l'étreindrait pas comme New York ou Philadelphie? Bien alors, nous irons dans l'Ouest, ou en Angleterre, ou en Suède. D'où est venu mon père? N'importe où, mais pourvu que ce soit loin de la vallée de la peur. Ce mot éveilla soudain chez McMurdo le souvenir de son entretien avec le vieux Maurice. Voilà, dit-il, la deuxième fois que j'entends nommer ainsi cette vallée. Il semble qu'elle projette sur quelques-uns d'entre vous une ombre bien lourde. Oh oui, une ombre toujours plus épaisse. Vous figurez-vous que Ted Baldwin vous a pardonné? Oh, mais il vous craint. Sans cela, quelles armes pensez-vous que nous aurions contre lui? Si vous aviez vu l'autre jour, de quels yeux dévorants il me regardait. Pardieu, qui s'en avise devant moi? Je lui apprendrai les bonnes manières. Écoutez-moi, petit ami. Je ne puis m'en aller d'ici. Je vous le répète, une fois pour toutes. Mais laissez-moi faire et je tâcherai de trouver un moyen honorable de me dégager. Mais il n'y a pas d'honneur en pareille matière. Oui, c'est votre point de vue. Mais donnez-moi un délai de 6 mois et je m'arrangerai de manière que je puisse partir sans honte. Elle eut une explosion de joie. 6 mois? Est-ce une promesse? Mettons, si vous le voulez, 6 ou 8. D'ici à 1 an, pas plus, nous aurons laissé derrière nous cette vallée. Ce fut tout ce que put obtenir Etty. Mais c'était déjà quelque chose. Un rayon lointain éclairait pour elle les ténèbres de l'avenir. Elle éprouvait, en s'en retournant, une sorte d'allégresse qu'elle avait cessé de connaître depuis qu'elle avait rencontré McMurdo. On pourrait croire que celui-ci n'ignorait rien des faits et gestes de la société dont il était membre. Cependant, il ne tarda pas à savoir que la loge faisait partie d'une organisation plus vaste et plus complexe. Certaines choses échappaient à McGinty lui-même, car il était un supérieur qu'on appelait délégué du comité et qui habitait Hobson Parkton, localité située plus bas sur la voie ferrée. Cet homme commandait plusieurs loges différentes qu'il menait avec une brusquerie arbitraire. McMurdo l'aperçut une fois, petit, menu, sournois, les cheveux gris, l'allure furtive, le regard malveillant et critique oblique. Il s'appelait Evan Potts et inspirait au grand patron de Vernissa un peu de cette répulsion qu'il devait ressentir l'énorme Danton devant le chétif et dangereux Robespierre. Un jour, Scanlan, qui logeait toujours dans la même maison que McMurdo, reçut un billet de McGinty lui transmettant une lettre par laquelle Ivan Spott annonçait l'envoi de deux hommes chargés d'opérer dans le voisinage. L'intérêt de la cause exigeait qu'il s'abstînt de tout détail sur l'objet de leur mission. Il pria le maître d'assurer leur logement et leurs aises jusqu'au moment de l'élection. Et comme la maison de l'Union ne pouvait loger secrètement des hôtes, McGinty, à son tour, pria McMurdo et Stanland de donner asile aux deux étrangers. Ils arrivèrent le soir même, chacun portant sa valise. L'un d'eux, Lawler, était un homme d'un certain âge, cauteleux, circonspect, taciturne, vêtu d'une vieille redingote noire qui, avec son feutre mou et sa barbe grise ébouriffée, lui donnait l'aspect d'un prédicateur nomade. L'autre, Andrews, sortait à peine de l'enfance. Il avait une bonne figure, ouverte, joyeuse, et les façons évaporées d'un gamin en vacances qui ne demande qu'à profiter des moindres minutes, et irréprochablement, sobre l'un et l'autre, il se conduisait en toutes choses de façon exemplaire, à ceci près qu'ils avaient souvent fait leurs preuves comme assassins et qu'ils étaient les plus redoutables instruments d'une association de meurtre. Andrews avait déjà rempli 3 missions de ce genre et Lawler 5. Très disposés à parler de leurs exploits passés, qu'ils racontaient d'ailleurs avec la même demi-modestie de gens habitués à mettre un zèle désintéressé au service de la cause commune, McMurdo les trouva au contraire les plus discrets quant à l'affaire présente. Ben, on nous a choisi, expliqua Lawler, parce que ni l'enfant ni moi nous buvons. Alors, bonne précaution contre les bavardages. On ne le prenait point en mauvaise part. Nous informons aux ordres du délégué du comité. Et le soir, pendant le dîner qui réunissait les autres hommes à la même table, « Mais nous ne faisons tous qu'un, » dit Scanlan. « Oh, sans doute, » répondit Lawler, « et nous causerons tant qu'il vous plaira du meurtre de Charles Williams ou de celui de Simon Bird ou de telle autre vieille histoire. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas fait notre besogne, si vous voulez bien, nous n'en parlerons pas. Car il y a ici une douzaine d'individus à qui j'aurais un mot à dire, » fit McMurdo avec un juron. « Celui que vous visez, ce n'est pas Jack Knox d'Ivan Hill, je suppose. Je ferai volontiers du chemin pour le voir, traité comme le mérite. Non, 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 ce n'est pas encore lui. Ni Herman Strauss? Non, non plus. » Évidemment, j'insisterai en vain si vous êtes décidé au silence, mais j'aurais aimé en savoir. Lawler sourit en hochant la tête. Il n'y avait rien à tirer de lui. En dépit d'une réserve si rigoureuse, Scanlan et McMurdo étaient dès maintenant résolus d'assister à ce que leurs hôtes appelaient la farce. Donc, un matin, de très bonne heure, les entendant descendre à pas de loup l'escalier, ils enfilèrent à hâte leurs vêtements. Lorsqu'ils descendirent eux-mêmes, Les autres avaient déjà passé au dehors, laissant derrière eux la porte ouverte. L'aube n'avait pas encore commencé de poindre. À la clarté des réverbères, ils aperçurent Lofter et Andrews à quelque distance dans la rue. Alors ils les suivirent de loin avec prudence. La neige étouffait le bruit de leurs pas. La maison qu'ils habitaient se trouvait presque à l'extrémité de la ville. Bientôt, ils arrivèrent à un carrefour extérieur. Là, trois hommes attendaient avec qui Lawler et Andrews engagèrent une conversation rapide et animée, puis toute la bande se remit en route. L'affaire devait être d'importance pour exiger un pareil nombre d'hommes. À cet endroit se détachaient plusieurs chemins qui menaient à diverses mines. Les étrangers prirent celui de Crow Hill. C'était une exploitation considérable et placée en de fortes mains. Alors que partout régnait la terreur, la farouche énergie d'un directeur américain, Joseph Dean, y maintenait l'ordre et la discipline. Le jour se levait, les ouvriers se rendaient à leur travail. Le long du chemin noir, ils avançaient en file, seuls ou par groupe. Mêlés à eux, McMurdo et Scanlan ne perdaient pas de vue le groupe qu'ils suivaient. Au-dessus de leur tête, flottait un épais brouillard qui déchira soudain le cri aigu d'une sirène. C'était le signal annonçant que 10 minutes plus tard, les cages allaient descendre et la journée de travail commencer. Au moment où ils arrivèrent devant le puits, un certain nombre de mineurs attendaient, battant la semelle et soufflant sur leurs doigts, car le froid était les plus âpres. Les étrangers se tenaient discrètement à l'écart, près du bâtiment de la machine, et Scanlan et McMurdo grimpèrent sur un tas de scories d'où ils embrassaient du regard toute la scène. Ils virent l'ingénieur, un grand Écossais brun, barbu, nommé Manzi, sortir du bâtiment et donner un coup de sifflet pour qu'on abaissât les cages. Et au même instant, un jeune homme de haute taille, tout rasé, vif, et qui se dandinait en marchant, s'approcha du puits. Ses yeux rencontrèrent le petit groupe silencieux et immobile. Les cinq hommes avaient rabattu leurs chapeaux et relevé le col de leurs vêtements pour masquer leur figure. Un pressentiment de mort pesa sur le directeur. Il se secoua et, n'écoutant que son devoir, il aborda les intrus. Qui êtes-vous? Leur demanda-t-il, et que faites-vous là? Pour toute réponse, l'un d'eux fit un pas en avant et lui tira un coup de feu dans la poitrine. Stupéfaits, les mineurs ne bougèrent pas. Ils semblaient paralysés. Le directeur porta la main à sa blessure et, replié sur lui-même, il s'éloignait en chancelant quand un second coup de feu partit du groupe. Alors il s'affaissa de côté et on le vit se tordre de souffrance, battant des pieds, criant le mâche-fer. À ce spectacle, Mansy l'Écossais poussa un rugissement, saisit une clé d'acier, bondit vers les assassins, et deux balles reçues en plein visage les tendirent à leurs pieds. Quelques-uns des mineurs semblèrent vouloir s'élancer. Un cri rauque monta, où se mêlaient l'honneur et la horreur et la colère. Mais deux des étrangers, s'étant mis à décharger leurs armes sur la foule, elle se dispersa dans une fuite panique, et certains coururent d'un train jusqu'à Vernessa pour s'enfermer chez eux. Cependant, les plus braves se rallièrent. On revint à la mine, mais la bande s'était évanouie dans le brouillard du matin. Il n'y avait pas un seul témoin capable de certifier en bonne foi devant un juge l'identité de ces hommes qui, sous les yeux de 100 spectateurs, avaient perpétré leur double crime. Scanlan et McMurdo s'en retournèrent. Scanlan assez abattu, car c'était le premier meurtre qu'il ait vu commettre. Il avait trouvé moins drôle qu'il ne le croyait, et les hurlements de la veuve du directeur le poursuivaient, tandis qu'il se hâtait vers la ville. McMurdo, plongé dans ses pensées, gardait le silence, sans laisser voir d'ailleurs aucune sympathie pour la faiblesse de son compagnon. « C'est la guerre !» répétait-il de temps en temps. « La guerre entre les compagnies et nous. Nous frappons comme nous pouvons, de toute notre force. » Cette nuit-là, on fit bombance à la maison de l'Union, dans le local de la loge. On n'y fêtait pas seulement le meurtre du directeur et de l'ingénieur de la Crow Hill, qui amènerait la compagnie à résipiscence et la contraindrait de subir comme les autres compagnies du district la loi de terreur et de chantage. Mais la loge avait à célébrer aussi un exploit personnel accompli hors des limites de son autre territoire. On sut que le délégué du comité, en même temps qu'il expédiait 5 de ses hommes pour frapper un coup à Verdissa, avait demandé que 3 hommes de Verdissa fussent secrètement choisis et envoyés pour tuer William Hals de la Royal Stokes. William Hals était un des propriétaires de mines les plus connus et les plus populaires du district de Gilberton. On n'aurait pas supposé qu'il eût un ennemi au monde, car c'était un patron modèle. Il n'exigeait qu'une chose, la conscience dans le travail. Aussi avait-il congédié certains envoyés paresseux ou ivrognes qui étaient membres de la toute-puissante société. Des avis combinatoires placardés dans sa porte n'avaient pas fléchi sa résolution, de sorte que, dans un pays libre et civilisé, il s'était trouvé condamné à mort. L'exécution avait eu lieu, Ted Baldwin y avait présidé. Assis à la place d'honneur, près du maître, il étalait son importance. Sa face rouge, ses yeux vitreux, injectés de sang, disaient la boisson et l'insomnie. Avec 2 de ses camarades, il avait passé la nuit dans la montagne. Tous les 3 avaient les cheveux en désordre, les vêtements souillés. Mais ils fussent revenus contre tout espoir d'une expédition héroïque qui n'aurait pas reçu un plus chaleureux accueil. Ils contèrent 1000 fois leur prouesse parmi les cris d'enthousiasme et les éclats de rire. Ils avaient attendu leur homme à l'heure où celui-ci, chaque soir, regagnait à cheval son domicile. Ils s'étaient portés au sommet d'une côte abrupte, dans un endroit où le cheval devait ralentir le pas, et emmitouflés dans ses fourrures, à cause du froid, William Hels n'avait pu mettre la main sur son pistolet. Ils l'avaient fait tomber à terre et tous les trois, ils avaient vidé leurs armes sur lui. Ils ne le connaissaient pas personnellement, du reste. Tout assassinat comporte certains imprévus dramatiques. À cet égard, ils avaient montré aux écumeurs de Gilberton que ceux de Vernissa méritaient qu'on leur fît confiance. En effet, tandis qu'ils déchargeaient encore leur revolver sur le cadavre, un homme et sa femme étaient apparus au sommet de la côte. On avait d'abord pensé à les tuer, mais c'étaient des êtres inoffensifs, étrangers à la population des mines. On les avait sévèrement invités à passer leur chemin et à garder bouche close, faute de quoi ils s'exposaient au pire malheur. Après cela, on avait laissé sur place le corps ensanglanté de la victime, afin qu'il servît d'exemple au patron sans cœur. Puis les trois nobles justiciers s'étaient enfuis dans la montagne où la nature demeurait encore vierge jusqu'aux frontières du pays des hauts fourneaux. Pour les écumeurs, ce jour resterait un grand jour. Jamais l'ombre n'avait été noire, si noire, sur la vallée. Mais comme un bon général choisit l'instant de la victoire pour redoubler ses efforts afin que ses ennemis n'aient pas le temps de réparer leur désastre, ainsi McCunty, considérant de ses yeux cruels et songeurs le champ de ses opérations, avait organisé, comme celui qui faisait opposition, une attaque nouvelle. Cette nuit même, la réunion se terminait, les compagnons se séparaient à moitié ivres, quand le maître prit McMurdo par le bras et le conduisit dans la petite pièce où avait eu lieu leur première entrevue. « Voyons, mon petit, lui dit-il, j'ai enfin une affaire digne de vous. Il s'agit d'opérer vous-même. » « Mais je m'en félicite, répondit McMurdo. Vous prendrez avec vous deux hommes, Max Rers et Millie. Tous les deux sont prévenus. Nous aurons la paix dans ce district qu'après en avoir fini avec Chester Wilcox. Débarrassez-vous de lui. Tous les gens du pays minier vous en seront reconnaissants. Ben, je ferai de mon mieux, mais qu'est-ce que ce Chester Wilcox et où le trouverai-je? » McGinty ôta du coin de sa bouche son éternel cigare, moitié chiqué, moitié fumé, et se mit à ébaucher une sorte de plan sur une page arrachée de son carte-pain. « Chester Wilcox, dit-il, est le principal contremaître de Iron Dyke, un citoyen mal commode, ancien sergent porte-drapeau, aujourd'hui tout poil gris et cicatrice. Nous avons tenté deux fois de nous en défaire. La chance nous a manqué. Jim Gataway a laissé la peau. À vous d'intervenir. Voici la maison, absolument isolée, à la bifurcation de l'Iron Dyke comme ce pli vous le montre. Il y a danger à opérer de jour. Oh, le drôle est armé. Il tire vite et bien et ne perd pas son temps à poser des questions. De lui, c'est différent. Il habite avec sa femme, trois enfants et une domestique. Vous n'avez pas à choisir entre les uns et les autres, c'est tout ou rien. Si vous pouviez placer contre la porte d'entrée un sac de poudre muni d'une mèche lente, et que reprenez-vous, reprochez-vous à cet homme? Mais ne vous ai-je pas dit qu'il a tué Tim Cadaway? Et pourquoi l'a-t-il tué? Tonnerre! Est-ce que cela vous regarde? Calloway rôde une nuit autour de sa maison. Il le tua. Cela me suffit, doit vous suffire. Allez, vous avez liquidé la question. Ben, il y a les deux femmes et les trois enfants. Faut-il les faire sauter eux aussi? Oh, sans doute, si nous n'avons que ce moyen de l'attendre. Oh, cela me paraît excessif pour eux. Ils nous ont point fait de mal. Mais qu'est-ce à dire? Nous ne serions-nous pas d'accord? Du calme, conseiller, du calme. Ai-je rien fait, rien dit pour vous donner à penser que je me sépare du maître de ma loge? À vous de décider. Ce qui convient et ce qui ne convient pas. Donc vous agirez. J'agirai. Quand? Oh, donnez-moi un jour ou deux, que je voie la maison et prenne mes dispositions. Ensuite, très bien, dit le maître, en lui serrant la main à McMurdo. Je m'en remets à vous. Quel beau jour que celui où vous nous arriverez avec la grande nouvelle. C'est le coup de grâce, celui qui doit mettre à mon pied toutes les compagnies. McMurdo réfléchit longtemps et profondément à la mission dont il se trouvait ainsi chargé. La maison qu'il devait faire sauter était située à quelques 5 000 de là, dans une vallée voisine. Il partit seul, cette nuit même, pour préparer l'attentat. Et la lumière était déjà haute quand il revint de sa reconnaissance. Le lendemain, il eut un entretien avec ses subordonnés, Manvers et Reilly, deux gamins impatients, heureux, comme à l'idée d'une partie de chasse. Enfin, le surlendemain, ils se rencontrèrent hors de la ville, armés tous les trois, et l'un d'eux portant dans un grand sac de la poudre de carrier. Vers 2 heures du matin, ils atteignirent la maison solitaire. Le vent soufflait, des nuages déchiquetés couraient sur la face de la lune qui était presque dans son plein. On les avait prévenus de se méfier des chiens. Aussi n'avançaient-ils qu'avec prudence, le pistolet en main, le doigt sur la gâchette. Mais il n'y avait pas d'autre bruit que la plainte du vent, d'autres mouvements que le frisson des branches. McMurdo colla son oreille à la porte. Tout semblait reposer à l'intérieur. Alors il appuya au montant le sac de poudre, il fit un trou avec son couteau et ajusta la mèche. Le feu mit, ses deux compagnons et lui détalèrent à toutes jambes pour se blottir dans un fossé. Une explosion et le fracas d'un écroulement leur apprirent que la besogne était faite. Les annales sanglantes de la société n'avaient jamais eu à enregistrer une prouesse plus expéditive. Hélas, ce chef-d'œuvre d'organisation et d'audace avait été conçu et exécuté en pure perte. Averti par trop d'exemples et sachant voué à la mort, Chester Wilcox avait fui la veille avec sa famille pour chercher un asile plus sûr, plus ignoré, où il put se mettre sous la protection de la police. On n'avait fait sauter qu'une maison. Le vieux porte-drapeau du temps de la guerre continuait d'indiquer la discipline aux mineurs de l'Irondike. Qu'on n'abandonne pas cet homme, dit Murdo. Il m'appartient. Tu sais, j'attendrai un an, j'aurai mon heure. La loge, par un vote unanime, lui manifesta sa confiance et son gratitude. Et l'affaire parut en rester là, mais Tout le monde savait McMurdo, résolu de la pousser jusqu'au bout. Et quelques semaines plus tard, Wilcox fut tué d'un coup de feu dans une embuscade. Tels étaient les procédés des hommes libres. C'est ainsi que les écumeurs gouvernaient par leurs craintes le vaste et riche district que depuis tant d'années ils infestaient de leur présence. Pourquoi souiller ces pages du récit d'autres crimes? N'en ai-je pas assez dit pour faire connaître ces hommes? Les exemples sont écrits dans l'histoire. Il y a des comptes rendus où l'on peut en lire les détails. Qu'on s'y reporte si on veut se renseigner, par exemple sur le meurtre des policiers, Hans et Evans, tués pour avoir osé mettre la main sur des membres de la loge de Vernissa, laquelle n'hésita pas à exécuter de sang-froid deux malheureux sans armes. On y verra aussi la mise à mort de Mr. Harbes pendant qu'elle ignorait qu'elle soignait son mari, assommé par ordre de McCinty, les lieux Jenkins assassiné avec son frère, James Murdoch, que l'on mutila, la famille Schaffhouse, qu'on fit sauter, les Stendhals, autant de victimes qui succédèrent à bref intervalle dans le cours du même terrible hiver. Jamais la vallée de vapeur n'avait connu d'heures plus sombres. Puis le printemps vint, il regonfla les ruisseaux et fit refleurir les arbres. La nature, libérée d'une longue étreinte, se revenait à des espérances. Mais il n'y avait point d'espérance pour les hommes et les femmes soumis à un si effroyable joug. Nul été ne s'était ouvert sur les mois riantes perspectives que celui de 1875.